Merci Sonia, bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Mounia Van de Castel, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Cyril Brenning. À la réalisation Marie Placé, prise de son Pierrick Monsigny, traduction Xavier Combes.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre nouvelle série consacrée aux crises. Cette semaine, les chercheurs vont nous livrer leur analyse et leur critique du phénomène économique le plus redouté. Nous allons tenter de comprendre comment les grandes théories économiques envisagent les crises, leur apparition et leur résolution, mais aussi les représentations que la fiction nous en offre. Il est 14h sur France Culture. Entendez-vous l'écho ? Aujourd'hui, nous allons passer en revue les grandes théories de la crise avec l'un de leurs célèbres critiques, l'économiste australien Steve Keen, professeur à l'université Kingston de Londres, où il dirige le département économie, histoire et politique depuis 2014, et auteur de L'imposture économique, réédité le 14 septembre dernier par les éditions de l'Atelier. À 14h50, Mounia Van de Castel sera comme chaque jour parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Steve Keen, bonjour.
Bonjour.
À la sortie de ce livre qui vient d'être réédité, L'imposture économique, ce que l'on a perçu en premier, ce sont les critiques des grands postulats des théories économiques néoclassiques. Pourquoi d'abord cette critique générale, avant de revenir sur chacun des points de cette théorie ?
Generic criticism is because any
se justifie parce que toute discipline univers s'inscrit dans un cadre, un paradigme, un prisme par lequel la discipline voit le monde. Alors évidemment, cela peut être confronté à des expériences qui contredisent le paradigme précédent, et Thomas Kuhn décrit cela comme des révolutions scientifiques. En économie, il y en a trois dans l'histoire, et ce qui est prépondérant aujourd'hui, c'est une révolution des années 1870 qui a remplacé l'école classique d'économie avec Ricardo Adam Smith et évidemment Karl Marx. Cette théorie est celle du capitalisme qui permet des crises d'un certain sens et qui était initialement utilisée pour défendre le capitalisme contre le féodalisme. Donc ça, je vous parle de Ricardo et Smith, et évidemment, entre les mains de Marx, il s'agissait de critiquer le capitalisme et d'en montrer les errements et les échecs. Et donc c'était contre le fait que le capitalisme ne redonnait pas de bénéfices, la productivité émanant même de la main-d'œuvre de la classe ouvrière, et donc il faudrait que tout revienne au col bleu. Dans la révolution de 1870, on disait que le capitalisme était un système qui récompensait aussi bien les travailleurs que le capital en apportant une contribution en production et qui avait une espèce d'équilibre. Et ce cadre mental, entre 1870 jusqu'à la petite crise de 1929, lorsque Keynes est revenu vers certains concepts classiques, eh bien, c'est ce à quoi nous sommes habitués. Donc maintenant, nous savons qu'il y a instabilité et crise. Et cette attitude face à la grande dépression, selon laquelle le capitalisme est instable, était vraiment dans l'esprit des économistes. Et cette attitude, donc, comme je disais, est revenue au fil des 4 ou 5 décennies suivantes et est devenue prépondérant dans les années 80-90 jusqu'en 2000. Et l'économie, dans sa veine principale, pense que l'économie est de façon inhérente stable et qu'il ne peut pas y avoir de crise. Et, aux surprises, il y a eu la crise de 2007. Personnellement, moi, je savais que le cadre dans lequel s'inscrivaient les principes économiques modernes, enfin contemporains, était totalement faux. En effet, on trouve les racines du mal il y a 40, 50 ou 60 ans, et je disais que les errements de ce paradigme ne pouvaient pas être utilisés pour le capitalisme actuel, surtout lorsque la crise survient. Mais je savais en même temps que le public ne s'intéresserait pas à ce point de vue, à moins qu'il y ait une crise. Donc j'ai écrit la première édition en 99, en 2000. C'était un prélude par rapport à ce que j'attendais être, non pas une crise mortelle du capitalisme, mais un choc énorme avec ce que j'attendais être, un effondrement de la bourse américaine à l'époque.
Alors, avant qu'on rentre dans le détail des crises, est-ce que vous pourriez nous raconter dans votre parcours intellectuel, votre parcours de chercheur, votre parcours d'économiste, même si j'ai appris que vous aviez fait plusieurs petits métiers avant d'être économiste et avant d'être chercheur. Dans votre parcours intellectuel, qu'est-ce qui vous a poussé à critiquer cette pensée qui est la pensée dominante en matière d'économie, Steve Kinn?
Ce qui m'a le plus poussé à critiquer l'économie, enfin le modèle économique dominant, c'est que j'étais exposé à des théories progressistes lorsque j'étais dans ma première année de fac. Et cette théorie allait à l'encontre de ce qu'on m'enseignait dans un cadre plus conventionnel. Pour moi, c'était si frappant de contredire la réalité qu'il fallait inverser tout ce qu'on m'avait dit. Donc c'était une espèce de prise de conscience intellectuelle qui m'a fait me pencher sur une possibilité de critique. Au fil des années, j'en ai appris plus sur la théorie et je me suis aperçu que ce qu'on dit dans les livres, c'est une très mauvaise description des choses. En effet, les choses sont présentées comme disant que l'économie fonctionne formidable, c'est comme un cristal parfait, si vous voulez, alors que si l'on regarde les journaux, les revues et les critiques, eh bien, on voit que les théories économiques sont pleines de failles et d'errements. Et quand on se penche là-dessus sérieusement, on se rend compte que la théorie, en fait, n'est pas fondée du tout. Ça, c'est la raison initiale, théorique, qui m'a poussé à me poser en critique. Donc, je me suis écarté dès 1972 de cette théorie dominante.
Alors, des critiques, il y en avait déjà eu, des grandes critiques à l'égard, bien sûr, du capitalisme, mais des grandes critiques à l'égard aussi de la théorie classique et néoclassique que vous avez citée. Steve Kinn, vous avez eu une grande rencontre intellectuelle aussi, ça a été Minsky. Et la pensée de Minsky reste la base aussi de votre critique.
Oui, quand j'ai commencé à me rebeller en 1971-72 contre l'économie de base, je me suis penché dans la littérature. Et en fait, c'est la définition du capital qui fait l'objet de controverses entre 60 et 70. Et moi, on ne m'avait pas du tout enseigné ça, du tout. Donc, je me suis penché sur la critique de l'économie traditionnelle et les alternatives qui existaient. Et toutes les alternatives étaient marxistes. Barney Squeezy qui disait que le capitalisme avait une tendance vers la stagnation. Mais moi, ça ne m'a pas convaincu du tout. Et au bout du compte, j'ai lu Minsky en 87. Et c'est la première fois que je lisais une critique du capitalisme qui était, à mon sens, une bonne description des choses. Et chez Minsky, il y avait une différence. Minsky nous dit que l'instabilité fondamentale du capitalisme est ascendante. La tendance à tourner la performance en spéculation, c'est ça. Les germes de l'instabilité du capitalisme. Et il y a évidemment les forces du capitalisme avec l'innovation, la prise de risque, le changement et ainsi de suite, et qui sont des forces contraires. Donc c'est un système en déséquilibre, mais ces forces peuvent être une faiblesse en même temps, parce que la façon dont on finance les investissements peut entraîner des bulles, un accroissement de la dette privée, puis évidemment une crise. Minsky, lui, n'a pas pu produire de modèle mathématique de cette hypothèse, et c'est ce que j'ai entrepris de faire dans ma thèse de doctorat.
Alors dans la théorie néoclassique, la crise n'existe pas. Elle n'est pas vraiment envisageable, elle ne peut pas vraiment exister. Il y a eu évidemment la réalité qui a démenti cette théorie-là, mais encore fallait-il organiser la critique, Steve Kinn. Et vous avez organisé la critique de manière extrêmement structurée, puisque ça a été une critique détaillée. Peut-être on pourrait commencer par la critique de la loi de la demande.
Dans la théorie néoclassique, donc on peut dire qu'il y a deux lignes qui se croisent. La courbe de la demande, qui, lorsqu'il y a une baisse, lorsque le prix baisse, les gens achètent davantage, les sociétés demandent un prix supérieur à mesure que l'offre augmente. Et cela, c'était un cadre mental accepté par les économistes dès les années 1870. Et dans les années 30, bizarrement, les économistes ont décidé qu'il fallait rencontrer des producteurs et qu'ils avaient des choses à se dire les uns les autres. Les producteurs, eux, ne comprenaient pas cette idée de la courbe de l'offre ascendante parce que, du point de vue de la production, là je vous parle des usines en Angleterre notamment, ils s'attendaient que les coûts baissent avec l'augmentation de la production, parce que les usines devaient atteindre leur pleine rentabilité lorsque la capacité était à 100%. Et à ce moment-là, on pensait que les coûts allaient baisser. Mais ça, c'était empiriquement fondé par la macroéconomie post-keynésienne, qui est le contraire de ce qu'on vous enseigne dans l'économie classique. Alors, après cette rencontre avec les producteurs des années 30, il y a le groupe d'études d'Oxford, donc, et il y a eu depuis lors entre 80 et 120 études empiriques de la structure de coûts des entreprises. Chacune des études contredit ce que l'on décrit dans les livres classiques. Aucune critique ne s'y retrouve. Récemment, il y a un livre qui est intitulé CORE, C-O-R-E, l'Institut pour la Nouvelle Réflexion Économique, une nouvelle façon de réfléchir sur l'économie, prétendument, et ce livre-là ne fait en rien référence au fait que le coût baisse avec la production et présente toujours ce même fantasme de la courbe d'offre ascendante. Donc, la théorie économique repose sur un fantasme.
Et c'est pourtant celle-ci qui est étudiée dans les universités, qui est majoritaire dans les institutions internationales. Et le fondement de ce livre, en tout cas son point de départ dans l'imposture économique, c'est ça. C'est d'abord faire ce commentaire-là.
Oui, je commence par tordre le cou à ce point de vue, parce que ces deux courbes d'offre et de la demande reposent sur une logique du fauteuil. Vous voyez les gens qui sont assis dans un fauteuil et qui décident comment les choses vont être régies, achetées, vendues, ainsi de suite. Les deux points de vue sont faux. Donc, mais pourtant, ces concepts sous-tendent la façon dont on enseigne l'économie. Et c'est un virus mental qui contamine l'esprit des gens. On voit la baisse de la demande, l'augmentation des coûts. Les deux points de vue sont faux, à mon avis. Donc, moi, j'explique les raisons théoriques pour expliquer pourquoi tout cela est faux, parce que si l'on ne retire pas la vision de l'esprit des gens, bien ça contamine toute autre réflexion à propos de l'économie.
Jusqu'aux politiques économiques.
Oh, absolutely. And
this oui, is tout à fait.
I find this extremely frustrating.
Et du reste, c'est très frustrant parce que Paul Samuelson a dit quelque chose de très juste. C'est lui qui a écrit le premier livre d'économie conventionnelle après la Seconde Guerre mondiale. Il dit, peu importe qui écrit les lois, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui sache écrire les livres d'économie. Et moi, dans mes contacts avec les médias et avec le monde politique, je vois l'influence que cela peut avoir. J'ai un ami qui était conseiller du Parti travailliste en Australie, Paul Keating, qui était le premier ministre, et il disait que on tenait des réunions, il y avait un événement exogène qui arrivait, tout le monde disait qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut bien faire, comment réagir, on discutait, et puis au bout du compte, quelqu'un disait quelque chose qui paraphrasait dans ses livres d'économie conventionnelle. Tout le monde pouvait comprendre le langage et ça devenait la politique économique qu'il fallait mettre en œuvre. Donc, ces idées contaminent la façon dont on réagit aux événements du monde et en fait, ça ne fait qu'empirer les choses. Une des grandes raisons qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que si l'on continue à poursuivre cette théorie économique prépondérante, il y aura des crises que l'on pourrait éviter, le système va se détériorer, les périodes de post-crise seront pires, et ce, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste depuis quelques années.
Alors on va écouter les arguments notamment de l'économiste Friedman, et l'entendre parler de ces modèles-là, de ces modèles économiques et théoriques.
The Walrasian view la vision valracienne est qu'il doit y avoir un système général de l'économie, un système de l'équilibre général qui reflète toutes les interconnexions dans la société, dans un seul système d'équations simultanées. Il est très compliqué d'en parler sans parler de manière très technique. Frank Horace Hahn est dans cette tradition. Alfred Marshall, qui était un grand économiste de Cambridge au XXe siècle, l'un des économistes les plus importants qui ait vécu, avait une vision très différente. Sa vue était que l'économie devrait être un outil d'analyse, que le but d'un économiste est de repérer des problèmes et d'essayer de construire des outils avec lesquels ils peuvent analyser ces problèmes concrets et tirer des conclusions quant aux conséquences de ceci. Pour parvenir à cela, il faut simplifier. On ne peut pas considérer le monde comme un tout. Il faut réduire le cadre et se concentrer sur un segment en particulier. C'est ce que j'appelle l'approche marshallienne de l'économie. Personnellement, je me suis toujours considéré comme un marshallien et non un valracien. Mais je pense que le système d'équilibre général est une très belle œuvre d'art. Je pense qu'il est très précieux que les étudiants l'apprennent pour avoir une intuition des relations entre les choses. Mais il n'y a pas de moyen de l'utiliser en pratique pour analyser des problèmes spécifiques. Par conséquent, je préfère considérer l'économie comme l'action de construire un instrument d'analyse.
Steve Kinn, je vais vous laisser commenter les propos de Milton Friedman. Juste auparavant, je voudrais juste rappeler le raisonnement systématique en termes d'équilibre qui est celui de la théorie néoclassique.
C'est intéressant de noter que Friedman parle avec des trémolos dans la voix du système d'équilibre développé par l'économiste mathématicien Walras. Walras a simplifié de manière radicale le monde réel pour produire un système dont il pensait pouvait expliquer l'avènement de l'équilibre. Cela reposait sur une analogie avec la bourse de Paris. Différents marchés, le marché de l'or et d'autres marchés, auraient des vendeurs autour d'une table avec un commissaire-priseur en quelque sorte qui menait les ventes et les achats avec un équilibre prétendu de l'offre et de la demande. Walras imaginait une salle avec des tas de gens travaillant sur tous les marchés, avec des enchères dans tous les sens, et il lance un prix aléatoire, une série de prix aléatoires. Et puis, on essaye de voir si la demande est supérieure à l'offre ou le contraire. Et lorsque il y a la nécessité de baisser le prix, on le fait, et ainsi de suite. Et Walras pensait que cela convergerait vers un équilibre pour tous les marchés. Autrement dit, c'est quand même des luttes de pouvoir et ça ne fonctionne pas. Walras était un économiste qui faisait de la modélisation mathématique. Donc, il a parlé à de vrais mathématiciens. Il a parlé à Henri Poincaré, notamment. Et il a demandé à Poincaré de s'assurer que ce processus amènerait à une convergence vers l'équilibre. Et Poincaré a dit: je ne veux pas accepter cet argument oral de convergence de Walras. Et donc Poincaré n'a pas fait la modélisation mathématique pour travailler là-dessus. 20 ou 30 ans plus tard, deux mathématiciens qui travaillaient sur la matrice et ses propriétés, c'était une matrice semi-définie positive. Ces deux mathématiciens ont démontré que le processus n'arriverait pas à une convergence d'équilibre. Donc, c'est un petit peu comme la découverte qui nous dit que les nombres rationnels, 1 plus 1 sur un triangle, vous donne un nombre irrationnel parce que l'hypoténuse est plus grande que les deux côtés. Alors, les pythagoriens détestent ce résultat, mais pourtant ils l'ont accepté. C'est pourquoi on est arrivé au nombre complexe, et ainsi de suite. Les économistes, eux, prétendent que ce résultat n'est jamais arrivé. Ils font semblant qu'on arrive à l'équilibre. Et alors que les mathématiciens ont démontré qu'on ne pourrait pas arriver à des équilibres dans l'économie. Donc, les économistes sont arrivés à un résultat qui leur déplaît, mais ils continuent, ils font semblant comme si ils étaient contents et comme si c'était démontrable. Ce ne l'est pas. Mais c'est de l'économie non pas mathématique, mais mythologique en quelque sorte.
Dans l'imposture économique, Steve Kinn, vous nous rappelez que ce sont les orthodoxes eux-mêmes qui ont découvert les inexactitudes de certaines de leurs théories. C'est eux-mêmes qui ont découvert dans certains travaux qu'il y avait des erreurs, que les modèles étaient trop théoriques. D'ailleurs, les propos de Milton Friedman aspirent à être exclusivement théoriques et donc des modèles à penser. Il dit bien qu'on s'éloigne de la réalité économique.
Oui, c'est une réflexion défensive face à l'économie.
Une autocritique, peut-être ?
On parle d'eux ou de moi ? Leur comportement est néanmoins compréhensible parce que c'est humain de s'accrocher à ses croyances et à ses convictions. Mais la science a mis en place une structure qui met à mal toutes leurs pensées. Et la méthode expérimentale a été une grande contribution. Et malgré ce que pensent certains économistes français, on ne peut pas faire que de l'expérimentation s'agissant de l'économie. Et on n'a pas beaucoup appris de ces erreurs commises. Et les critiques théoriques et les obstacles qu'ils se sont eux-mêmes imposés n'ont pas servi non plus. Lorsque les pythagoriens se sont rendus compte du fait que leur pensée était fausse et que l'hypoténuse était plus grande que les deux côtés, ils ont fini par accepter le résultat quand même. Les économistes, eux, n'ont pas voulu voir les résultats. Ils sont coincés avec cette notion de convergence et d'équilibre plutôt que de transcender l'approche. Ils sont coincés avec ces théories. Et du reste, ce sont eux qui se sont plantés et ce sont des imposteurs. Ce ne sont pas de véritables scientifiques. Et du reste, ils le sont de manière inconsciente parce que la plupart de ces gens-là n'ont aucune idée que ces idées ont été critiquées. Ils ne lisent pas la critique. Ils n'ont pas lu mon livre qui montre que les théories ne se sont pas déroulées comme il le prévoit.
Dans l'imposture économique, vous proposez de repenser la crise. Et donc, pour penser la crise, il faut repenser la dette, la monnaie et le rôle des banques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ces trois points ?
La plupart des gens qui ne sont pas diplômés d'économie pensent que les économistes sont des experts en argent. Ils sont incrédules lorsqu'ils se rendent compte que les modèles économiques n'incluent pas l'argent ou les banques ou la dette privée. En effet, plutôt que d'être des experts en argent, les économistes sont experts dans la mise au point d'excuses, de prétextes, parce qu'ils n'intègrent pas tout dans leur modèle. Donc, cela constitue, à mes yeux, la faiblesse la plus évidente, criante après la crise financière. La théorie économique met de côté les facteurs qui causent la crise financière. C'est pourquoi ils n'ont pas pu prévoir la crise financière. Donc moi, j'essaye de mettre au point une approche non équilibre, mais j'essaye aussi de développer une approche de l'économie où les banques, l'argent et les autres facteurs jouent un rôle fondamental. Après la crise, les théoriciens classiques ont commencé à inclure le secteur financier dans leur modèle, mais ils traitent le secteur financier comme une source de friction, des freins vers l'équilibre. Moi, pour décrire le secteur financier, je ne dirais pas que c'est une friction. C'est quelque chose qui va vous faire glisser vers la crise suivante. Ça ne va pas vous retarder vers l'équilibre. Ça va au contraire être comme une peau de banane qui va vous faire chuter à nouveau.
Alors expliquez-nous ce que vous préconisez en matière de dette et qui a été un élément qui vous a permis de prévoir la crise de 2008.
C'est là que Minsky joue un rôle important, à mes yeux. Minsky lui a mis l'accent sur le rôle de la dette et du crédit dans une économie capitaliste. Et il nous dit, et c'est très important, qu'au début de l'analyse de l'économie capitaliste, il faut se situer à un point où il y a eu une crise de la dette dans un passé récent, et les banques et les entreprises restent conservatrices quant à la quantité de dette qu'elles veulent bien assumer. Donc, le dette constitue une partie importante de la réflexion de Minsky. Moi, j'ai pris cet argument et j'explique ceci. La dette finance l'investissement en surplus des revenus. Mais lorsque l'on finance l'investissement, on va évidemment s'endetter davantage et il faut assumer le service de la dette. Donc, il y a une augmentation de la dette privée qui finance l'investissement supplémentaire. Et en réalité, on peut avoir un certain autofinancement parce que l'investissement donne lieu à des revenus qui permettent de payer la dette. Mais
c'est un point un peu compliqué. Peut-être vous pourriez revenir un tout petit peu sur Minsky avant de nous expliquer le chemin que vous avez fait intellectuel depuis Minsky dans le rôle de la dette.
La grande inspiration de Minsky, c'était le travail d'Irving Fisher sur la théorie de déflation de la dette dans les grandes dépressions. Fisher était connu parce qu'il avait dit que les prix de la bourse atteignent un plateau qui stagne pour toujours. Et ça, c'était juste avant la crise de 29. Évidemment, lui, il a fait faillite et sa crédibilité en a souffert. Par la suite, il a essayé de comprendre pourquoi sa théorie avait été si vivement mise à mal par la crise financière. Il a dit que le capitalisme, c'était un système de déséquilibre. Même si l'on croit que ça tend vers l'équilibre, toutes les variables vont être au-dessus ou en dessous de l'équilibre en raison des chocs. Donc le point de départ important, c'est lorsqu'on en a trop de dettes et lorsque les prix chutent trop en même temps, donc trop de dettes et déflation, il dit qu'il y a une réaction en chaîne qui entraîne une dépression. Minsky, lui, explique comment on arrive à ce point de départ. Comment on commence avec une faible dette, pourquoi les gens s'endettent pour financer les investissements. Donc là, il y a donc un boom, les revenus augmentent pour les entreprises, mais aussi pour les banquiers, ça réduit les bénéfices. Autrement dit, on a une situation de baisse, il y a des hauts et des bas. On arrive jusqu'à un niveau de dette qui est si élevé qu'on ne pourra pas s'en remettre face à la crise, et c'est là qu'a la dépression. Et moi, j'ai travaillé là-dessus et j'essaye de développer un modèle mathématique pour l'expliquer.
Sur cette question de la dette privée.
Oui, il s'agit de dette privée. Ce qui est si frustrant dans l'économie conventionnelle, c'est qu'elle... Ça explique pourquoi les responsables politiques s'intéressent seulement à la dette publique et pas à la dette privée. Parce qu'on pense que la dette privée, ça consiste à ce que moi je vous prête de l'argent, par conséquent moi j'ai moins d'argent qu'au début, donc moi je dépenserai moins, vous en avez plus, donc vous allez dépenser plus. Donc moi je baisse, vous montez, et puis si vous me repayez, eh bien c'est moi qui vais avoir plus d'argent à dépenser, et puis on fait des hauts et des bas comme ça, en aller-retour. Mais en réalité... Le point de départ, c'est la création de monnaie et de dette. Ça crée de la demande. Oui, les banques créent une demande supplémentaire. Et c'est ça qui crée une bulle, puis un ralentissement et une dépression. Mais le gouvernement, lui, est propriétaire de sa propre banque, la banque centrale. Si on ne peut pas rembourser la dette sans banque, c'est une chose, mais la banque est propriétaire de sa propre banque. Donc le secteur public est bien plus à même de payer ses factures que le secteur privé. Et lorsqu'on est obsédé par la dette publique, ce qui est le cas dans le cas du traité de Maastricht avec la BCE, on s'inquiète uniquement de ce qui ne va pas et en fait, ce qui va bien, on ne s'en occupe pas du tout et le résultat, c'est que tout va mal.
C'est une obsession européenne alors, la question de la dette des États, de la dette publique, alors qu'on devrait se concentrer sur la dette privée qui, elle, risque de faire des crises, Steve Kinn.
L'obsession
envers la dette publique, c'est un phénomène mondial qui taraude l'esprit des responsables politiques. Mais évidemment, on s'est mis en exergue avec le traité de Maastricht, avec les déficits qui ne doivent pas dépasser 3%, et si possible, un excédent budgétaire est souhaitable. Donc, d'un point de vue économique, c'est la même chose, hein, l'excédent de déficit, je vais vous expliquer pourquoi, alors qu'en même temps, on ignore superbement la dette privée. S'agissant de la France, par exemple, je crois que la dette privée en France est à 120% du PIB lors du lancement de l'euro. Aujourd'hui, on est à 2%. Le traité de Maastricht en tient-il compte? Non. Vos responsables politiques le savent-ils? Non. La dette publique, elle, n'a commencé qu'à augmenter après la crise. Et pourtant, c'est leur sujet d'obsession. En conséquence, ils rendent la situation économique pire.
<t'->
va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie, la crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou, il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang, il existe un moyen pourtant d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout est les yeux tout merveilleux, et de chanter à Dieu, la crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. On dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le puretin comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait à peu près. Maintenant les petits comme les gros ne roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos, leur coule à faut rien d'être trop beau, car disons-le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
La crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
C'était Albert Préjean en 1934, La crise est finie. Et la crise, évidemment, n'était pas finie. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette chanson, un peu euphorique au moment de la Grande Dépression en France? Steve Keen.
Yeah, the sense of euphoria.
Oui, l'euphorie, c'est une notion intéressante.
There's a classic saying in English, which I'm sure is in French as well. Pride goeth before a fall.
On dit, on est particulièrement fier avant la chute. Et les économistes étaient fiers avant la chute, extrêmement fiers. Et c'est vrai entre 2000 et 2007. Et ironiquement, ils étaient si fiers en raison de la grande modération, la baisse de la volatilité, de l'inflation et du chômage. Ils se croyaient tout à fait responsables de ce bienfait. Mais en réalité, c'était un effet secondaire de mon modèle mathématique qui repose sur l'hypothèse d'instabilité de Minsky. On génère une grande modération juste avant une crise.
Dans les périodes de stabilité.
Oui, c'est ça, stabilité juste avant la crise. Alors, eux, ils pensaient que ça allait durer pour toujours, alors que dans mon modèle et dans le travail de Minsky, on voit qu'il va y avoir une période de stabilité, certes, avant un effondrement. C'est ce qui s'est passé. Donc, moi, je savais que la crise approchait, pas simplement en 2005, lorsque j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme, mais en 98, 2000, 2001, 2002, lorsqu'il y avait un déclin visible de la volatilité du chômage et de l'inflation. Ça, pour moi, ça voulait dire que la crise était à nos portes.
Au moment de la première sortie de ce livre, L'imposture économique, vous avez prévu la crise qui allait advenir et notamment en raison de ce ratio que vous pourriez peut-être nous détailler entre dette et PIB.
Les deux indicateurs les plus importants d'une crise, c'est le ratio de dette privée par rapport au PIB. Ça vous explique combien d'années il faudra pour repayer la dette existante. Deuxièmement, vous avez le taux de changement de la dette de façon annuelle par rapport au PIB. Ça vous explique la quantité de demande qui repose sur le crédit. Et l'économie qui a un endettement de plus de 1,5 fois le PIB et où le crédit est à 10% du PIB ou davantage, eh bien, ça, c'est une économie qui dépend de la poursuite de la croissance et de la dette. Étant donné que la dette privée ne peut pas croître plus vite que le PIB, à un certain moment, il faudra que la tendance se casse. Et dès que le taux de la croissance de la dette ralentit, ça va générer la crise. Et c'est ce que j'ai prévu en 2005-2006 et ça a démarré en 2007, en septembre 2007 aux États-Unis. À ce moment-là, le crédit représentait 15% du PIB et la dette privée était à 160% du PIB. Et peu de temps après, le ratio de dette a continué à augmenter pendant un certain temps pour atteindre 170% du PIB, mais le crédit est passé de plus 15 à moins 6%. Donc, en l'espace d'un an à peine, la contribution de la demande de crédit est passée de plus 15% à moins 6% du PIB. Et donc, vous voyez que la demande a changé complètement. Et c'est ce qui a provoqué la crise.
Steve Keen, au moment de la crise de 2008, il y a eu bien sûr les conséquences économiques catastrophiques que l'on connaît, mais aussi cette prise de conscience peut-être que la théorie n'avait pas prévu, n'avait pas servi à prévoir les conséquences économiques de ces bulles et de leur éclatement. On va entendre Alan Greenspan lors de son audience face au Congrès le 23 octobre 2008 dans le cadre de la commission sur la crise des subprimes.
You said in your statement...
Dans la déclaration que vous nous avez fournie, vous dites que la totalité de la conception intellectuelle moderne de la gestion des risques s'est effondrée. Vous dites aussi, ceux d'entre nous, moi inclus, qui se sont penchés sur l'intérêt des banques à protéger les fonds de leurs actionnaires, sont dans un état de choc et de désabus. Fin de citation. Il me semble que vous expliquez ici que ceux qui croyaient que les marchés allaient se réguler d'eux-mêmes ont fait une grosse erreur.
Je pense qu'on peut le dire de certains produits, mais pas de tous. C'est la raison pour laquelle il est crucial de distinguer l'importance du problème et sa nature. Je voulais mettre en avant le fait que les marchés dérivés fonctionnaient très bien, à l'exception du crédit default swap.
Où pensez-vous avoir fait une erreur alors ?
That the self-interest of organizations, specifically banks and others, were such as that they were best.
J'ai fait une erreur en estimant que l'intérêt des banques faisait d'elles les organisations les plus adaptées pour défendre leurs actionnaires et leurs capitaux.
So the problem here is something which looked to be a very solid edifice.
Le problème ici a été qu'un édifice qui avait l'air très solide et constituait un pilier de l'économie de marché s'est bel et bien effondré. Et je dois dire que je ne sais toujours pas véritablement pourquoi cela s'est produit. Bien évidemment, si je comprenais exactement ce qui s'est passé, je serais prêt à changer d'avis. Si les faits changent, je changerai aussi.
Steve Keen, c'était donc Alan Greenspan qu'on entendait s'exprimer ex-président de la Réserve fédérale. Pourquoi n'a-t-il pas prévu et pourquoi ne comprend-il pas a posteriori les erreurs économiques qui ont pu être faites ?
Moi, je suis ami de Bill White depuis 10 ans. Bill White, c'était le directeur de la recherche de la Banque internationale des règlements. Bill White était un fan de Minsky, comme moi. Donc, les rapports de la Banque internationale de règlements sont le miroir de la pensée de Minsky. Et de l'OCDE, moi, je lis les rapports tous plus erronés les uns que les autres, aussi erronés que ceux de la Fed ou du FMI. Mais Bill White, tous les 6 mois, tenait une réunion avec tous les gouverneurs de banque centrale et Greenspan y assistait. Et Bill essayait d'être convaincant et Greenspan, lui, il regardait tous les autres banquiers derrière de dire « N'écoutez pas ce que ce White vous dit ». Donc, autrement dit, il se bouchait les oreilles en quelque sorte dès qu'on parlait du fait que le capitalisme n'est pas un système d'équilibre. Donc, voilà une attitude sur le capitalisme. Vous avez Milton Friedman qui vous parle de l'équilibre. On vous parle de l'esprit d'entreprise et ainsi de suite. Et on vous dit que la macroéconomie est stable, quel que soit l'état des banques. Mais étant donné que Greenspan se bouchait les oreilles, il a ignoré les facteurs les plus importants. Et Greenspan n'a pas changé son point de vue.
Mais ce que vous dites et ce que vous écrivez dans l'imposture économique, c'est qu'en réalité, ça nous questionne sur la science économique. économique même, pas dans ce qu'elle pourrait faire, mais dans ce qu'elle est actuellement et dans la manière dont elle est enseignée. Est-ce que l'on croit en la doctrine économique comme on croirait en Dieu ? Steve Keane.
Oui, c'est devenu une religion, c'est ça le problème. Et là encore, on est dans la nature humaine. Nous sommes des êtres qui avons besoin d'avoir des croyances et de partager des croyances. Nous nous définissons à l'aune de nos croyances. C'est vrai pour les scientifiques et c'est vrai pour les croyants. Mais les sciences physiques ont des méthodes expérimentales. Et lorsque l'on essaye de reproduire les théories scientifiques dans des études empiriques et qu'on est confronté à un échec, eh bien, à ce moment-là, il faut reconnaître les choses et faire autre chose. En économie, c'est différent. Là, on est dans un autre système de croyances. Et c'est vrai pour la droite et pour la gauche, même aux extrêmes. Et les gens s'accrochent à leurs croyances malgré ce qu'ils voient dans la réalité. Ça s'applique aux marxistes, aux néoclassiques et ainsi de suite. Donc, de ce point de vue-là, il y a un élément religieux qui explique le comportement des économistes, même ceux qui se trompent. Moi, j'essaye de dire qu'il faut décrire correctement le capitalisme. Mettons de côté la religion, essayons de décrire précisément et justement ce qui se passe, parce que la théorie économique classique ne fait qu'empirer les choses. Vous avez l'Union soviétique qui a démontré ses propres errements, et puis vous avez l'économie néolibérale du capitalisme qui vise à retirer le secteur public et qui met l'accent sur la dette gouvernementale au lieu de s'intéresser à la dette privée, qui a montré, elle, ses propres errements aussi.
Mais Steve Keane, on aurait pu penser que depuis Keynes, ce travail de remise en cause avait été fait, de mettre la monnaie au centre, de repenser la dette et repenser la manière aussi dont on pense l'économie et dont on l'étudie dans les universités, ce qui fournit aussi un modèle à penser pour les politiques économiques.
Yeah.
Ça aurait pu être une possibilité, mais il s'est passé deux choses. Keynes, lorsqu'il a décrit sa théorie générale, pensait que les problèmes du secteur bancaire avaient été résolus. Donc les questions bancaires qu'il avait d'abord couvertes, il ne les a pas reproduites dans la théorie générale. Il a intégré l'analyse de l'argent avec l'analyse offre et demande de Marshallienne dans la préface française, c'est qu'on comprend bien cela, et peu après la publication du livre, John Higgs a écrit ce qu'il appelait une revue, mais en réalité, il mettait son point de vue macroéconomique dans la balance, avec ce point de vue de Walras. Et donc cette analyse de Walras a été considérée comme appartenant à Keynes. Donc cette tradition s'est évaporée. Et des gens comme John Robinson, Nicholas Carroll, Roy Harron et d'autres ont développé l'économie post-keynésienne pour dire « il y a une mauvaise interprétation de Keynes, nous devons nous en servir, mais la bataille est perdue. » Au fil du temps, la vision néoclassique que Keynes essayait de mettre à bas est renée de ses cendres. Tout d'abord, grâce à la critique de Keynes, et puis c'est devenu une théorie alternative. Donc on est revenu à un niveau de l'école néoclassique qui aurait horrifié Keynes parce que c'était bien plus virulent, bien plus extrême que la théorie néoclassique qu'il avait combattue lui dans les années 30.
Hi Dad.
Bonjour papa.
Oh, hello, son.
Bonjour mon fils.
Sit down.
Assieds-toi.
Sure.
Okay.
Now, listen up, Alan.
Écoute Alan.
I'm all ears, Dad.
Je suis tout ouïes. Le modèle d'instabilité financière décrit les revers financiers.
Tu veux dire les crashs et autres?
Exactement. Ils ont une fonction normale de l'économie capitaliste. Cela ne signifie pas que l'économie est malade ou au bord du désastre.
J'espère bien.
Sois sérieux. Le fonctionnement normal d'une économie solide financièrement est à la fois paisible et prospère dans l'ensemble. Mais la tranquillité et le succès ne sont pas des états autonomes.
Tu veux dire que la stabilité incite à l'optimisme, à emprunter pour des titres et dans l'immobilier ?
Transformant une structure financière solide initialement en une structure fragile.
Dis-moi si j'ai bien compris. Après une crise, les gouvernements réglementent le monde financier et une période de stabilité s'ensuit qui engendre un excès de confiance. C'est l'euphorie, les politiciens détendent les régulations en place, conduisant à un emprunt excessif, qui cause l'instabilité dans ces bulles euphoriques.
By Jove, I think my boy's got it.
Je crois que mon fils a compris.
C'était un extrait du documentaire Boom Bust Boom, documentaire sur les crises économiques de 2015 réalisé par Terry Bill Jones et Benjamin Timlet, dans lequel on voit un échange entre Minsky, représenté par une marionnette, et son fils sur l'instabilité financière. Vous avez participé à ce documentaire, Steve Kinn ?
I did.
Oui, j'y ai pris part.
That was really an attempt to portray the Minsky's hypothesis.
Donc, on essaye de décrire les hypothèses de Minsky sur l'instabilité financière. C'est pas mal fait. Moi, je crois qu'il reste difficile de faire comprendre cette hypothèse lorsque l'on comprend malgré tout et que l'on accepte l'analyse de l'offre et de la demande en toile de fond. Le problème, c'est que nous restons une minorité. On est en fait vox clamans in deserto, et c'est l'analyse conventionnelle qui prévaut. Les banques centrales ont réussi à stabiliser les choses depuis 10 ans, mais nous avons perdu notre voix, en quelque sorte, la voix que nous avions essayé de faire entendre lors de la crise.
Quel est le scénario que vous imaginez, Steve Kinn, à travers ces crises qui se... Est-ce que c'est des crises qui se ressemblent ? Est-ce que ce sont des crises qui vont se répéter ? Si oui, à quel intervalle ?
Peut-on éviter une autre crise financière ? C'est le titre de mon prochain livre. J'explique que les économies qui ont connu une crise en 2008, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi une grande partie de l'Europe, ces pays avaient une bulle de dette qui a éclaté, et aujourd'hui, ces pays ont trop de dettes privées. Et pour cette raison, la demande reposant sur le crédit est faible, d'où la stagnation. Donc ce sont les walking dead de la dette. Certains pays ont continué à s'endetter, je pense à la Chine notamment, et ainsi la demande a continué à croître et l'économie ne se porte pas trop mal. Mais aujourd'hui la dette privée est telle qu'elle est devenue comparable à la période pré-crise.
Donc la Chine est à nouveau une zone de risque.
Ah oui, l'Asie est complètement en risque de crise, particulièrement la Chine, parce qu'elle a connu la plus grosse bulle de dette de l'histoire, de 120% du PIB en 2009 à 210% du PIB aujourd'hui. Et ça a financé les grandes bulles que l'on connaît avec toutes ces villes fantômes en Chine, mais le Canada, la Corée du Sud, la Belgique, la Suède, la Norvège ne sont pas immunisés. Ajoutez tout ça, c'est à peu près l'économie des États-Unis par la taille. À mon avis, dans 1 ou 3 ans, tous les pays que je viens de citer vont connaître une crise. Je parle des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Corée du Sud comme étant les walking dead, les zombies de la dette, et voilà, ça va se produire comme ça. Et du reste, un des zombies sera peut-être la France.
Ne nous portez pas malheur. Quelles sont les solutions à cette situation ? Si le capitalisme est intrinsèquement instable, Steve Kinn, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution ? Vous nous dites que l'endettement des États n'est pas une priorité, en tout cas que réduire cet endettement n'est pas une priorité. Alors quelle solution pour éviter de nouvelles crises ?
Le capitalisme sera toujours instable. Mais ce n'est pas forcément mauvais. L'instabilité donne lieu à la créativité dans le capitalisme. Mais il faut réduire l'impact que cela a dans le secteur financier, parce que c'est l'instabilité financière qui donne lieu à un effondrement. Nous vivons dans un monde où il y a 2 institutions qui peuvent créer de la monnaie. Les banques, en prêtant plus que ce qu'on leur repaye, et le gouvernement, qui dépensent plus que ce que rapportent les rentrées fiscales. Et les banques centrales, elles, ont créé énormément d'argent pour acheter des actifs au secteur financier, pour lancer les marchés des actions, par exemple. Mais personne n'a payé d'impôts pour payer cela. Donc tout ça, ce n'est que comptable au niveau des banques centrales. Et les banques centrales mettent de l'argent non seulement dans, pas dans le secteur du, dans le secteur financier, mais dans le secteur public pour rembourser la dette. Donc, ils annulent la dette qui crée le crédit par de l'argent qui ne finance pas le crédit. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux de la dette. Si on arrive à casser tout cela, on pourra éviter les retentissements négatifs de la bulle de la dette privée et les inégalités que cela provoque.
Mais casser comment ? Par des politiques économiques ? Par une intervention de l'État ? Par l'État qui doit faire de nouveaux investissements ciblés ?
Il faut absolument changer la politique économique, notamment celle de l'Union européenne qui est catastrophique. Moi, ce que je voudrais voir, c'est la reconnaissance de la monnaie, de l'argent. Les économistes nous empêchent de voir ça parce qu'ils pensent que l'on peut comprendre le capitalisme en faisant fi de la monnaie. Mais lorsque l'on voit que ce sont les banques et les gouvernements qui produisent de l'argent, plutôt que des banques comme étant des entrepôts d'argent, et alors que les gouvernements ne devraient pas économiser mais dépenser, alors, si on arrive à créer de l'argent, cette capacité à créer de l'argent, on pourra utiliser des ressources non employées, mais on pourra annuler la dette privée excessive. À ce moment-là, on appuiera sur le bouton reset pour alléger le service de la dette. La probabilité que ça se passe, c'est zéro, étant donné l'opposition des gens qui sont enrichis dans les bulles financières. Mais si on comprenait cet aspect du capitalisme, on pourrait éliminer le retentissement des crises financières. Et j'espère que l'on pourrait renforcer l'aspect créatif de l'instabilité du capitalisme plutôt que de nuire au secteur financier dont les effondrements génèrent des crises.
Stifkin, est-ce que le fait d'avoir prévu cette crise de 2008 que personne n'avait vu venir, est-ce que le fait d'avoir repensé le modèle néoclassique et d'avoir proposé de nouveaux outils et de nouvelles politiques économiques vous a donné de nouveaux accès ? Est-ce que vous commencez à pouvoir murmurer à l'oreille de dirigeants ou est-ce que vous commencez à être plus entendu ? Ou est-ce que le courant économique que vous êtes en train de créer continue à être considéré comme totalement punk dans la sphère des théoriciens économiques ?
J'habite à Londres. Je travaille à Londres, notamment parce que les Britanniques ont une tradition de faire vivre des idées auxquelles ils n'adhèrent pas forcément. Ça ne s'applique pas aux États-Unis, ça ne s'applique pas chez moi en Australie, et je crois que c'est difficile en Europe continentale, étant donné la politique, notamment la politique monétaire de l'Union européenne. Donc moi, je vais à la Chambre des Lords régulièrement, j'ai parlé au comité du Trésor au Parlement, je vais m'exprimer devant le département du Trésor en Grande-Bretagne bientôt, et le chef économiste de la Banque d'Angleterre, c'est un de mes amis. Donc il y a au Royaume-Uni une ouverture qui n'existait pas auparavant, mais il y a néanmoins beaucoup de résistance, notamment dans le monde universitaire, nous sommes toujours des marginaux.
Et comme tous les jours, c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Mounia Van de Castel est parmi nous. Bonjour Mounia.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous.
Alors le chiffre du jour ?
Eh bien le chiffre du jour, c'est celui du nombre de banques qui ont fermé depuis le début de la crise justement. En effet, la période n'est pas des plus fastes pour le secteur en Europe. C'est en tout cas ce que démontrent les chiffres de la Fédération bancaire européenne, selon lesquels ce secteur décroît chaque année depuis près de 10 ans, c'est-à-dire depuis le début de la crise. Ainsi, depuis 2008, 22% des banques ont disparu et cette chute est constante depuis 9 ans. Au début de la crise, il y avait ainsi plus de 8000 banques en Europe contre 6500 aujourd'hui. Selon la Fédération bancaire européenne, cette tendance s'explique notamment par les fusions dans le secteur dans le but d'améliorer sa rentabilité et de permettre de meilleures économies d'échelle. Selon la BCE, les pays ayant le plus souffert en termes de fermeture d'établissements sont les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche. Il n'y a qu'un pays qui dénote l'exception qui confirme la règle, il s'agit de la Slovaquie, où le nombre de banques a augmenté.
Alors les banques ferment et les agences aussi ?
Eh bien, en effet, en à peine une décennie, sur le vieux continent, ce sont 20% des agences bancaires qui ont en effet fermé leurs portes. En 2016, l'Europe comptait ainsi 9000 agences de moins qu'en 2015. Quant à la France, elle a perdu plus d'un millier d'agences entre 2008 et 2014, mais attention, ne noircissons pas trop le tableau non plus, car l'Hexagone et ses 36 000 communes peuvent tout de même s'enorgueillir de posséder l'une des plus fortes densités d'agences bancaires au monde, c'est-à-dire le nombre d'agences par rapport au nombre d'habitants. Cependant, si le nombre d'agences diminue, c'est une question de coût. Il faut alléger la masse salariale. Surtout avec la numérisation du secteur, les consommateurs sont incités à se servir de leur mobile au lieu de se déplacer en agence. Et ils ont vite pris le pli, apparemment, avec un enthousiasme non dissimulé, selon la Fédération bancaire européenne. Ainsi, 82% des internautes consultent régulièrement le site internet de leur banque et près d'un client sur trois accède à ses comptes via smartphone. Et c'est amusant parce que la France est l'un des seuls pays avec à la fois une telle densité d'agences et autant d'utilisateurs de banques en ligne. Si ça peut sembler assez paradoxal, n'oublions pas tout de même que la fréquentation des agences est en baisse. Ainsi, en 2010, un client sur deux se rendait plus d'une fois par mois en agence. Mais ça, c'était avant. Et maintenant, c'est moins d'un client sur cinq.
Alors, est-ce que ça a un impact sur l'emploi du secteur ?
Eh bien, oui. Conséquence, en effet, les banques suppriment des postes à tour de bras. L'été dernier, la BNP a annoncé la suppression de plus de 600 postes. C'était même 10 000 du côté de la Commerzbank en Allemagne, qui est d'ailleurs le pays qui emploie le plus de salariés dans le secteur. En Europe, au total, depuis 2008, ce sont 14% des emplois qui ont disparu dans le secteur.
Et la France s'en sort pas si mal ?
Eh bien oui, alors c'est ça qui est plutôt positif, c'est que finalement la France ne s'en sort pas si mal avec plus de 300 banques et 370 000 employés. Le secteur serait même l'un des principaux atouts économiques du pays selon l'OCDE. Et d'ailleurs, les 6 plus grands groupes bancaires français sont plutôt en bonne santé avec un bénéfice net de 145 milliards d'euros, ce qui est sensiblement mieux que ce qui se fait chez nos voisins européens.
Ayo, rise in the AM, early morning lay in. I just wanna stay in, I just wanna lay in. Pops like, get your ass up, stop the faking. We already late in, Sunday morning waking, faking like my stomach aching. Mom pull out clothes, it's a Sunday dress occasion. Bow tie, no lie, church shoes was aching. 80 degree weather in the blazer, body blazing. Already can't wait until this day in. Just a little nigga that would rather be home video gaming. Now we on our way in, deacon speaking, preacher preaching to that congregation. Mason. Mason. Minds wandering off, not hearing that man of the cloth. Talk about that man on the cross. Now we back to praying. Old ladies with church fans screaming out, amen. Looking at that painting on the stained glass. Watching why that collection plate pass. Tithes offering to me is all the same cash. Fast forward, got older, a youngin' that gone bad. Let me rephrase that, a youngin' that went down that wrong path. No matter how religious moms and pops was, still had encounters with the cops some. Product of that environment I was in. Once I left that front door, I could have been out of here. Bullets flying is the norm, so most kids walk without a fit. Friends dying is the norm, so they walk without a tit. Rather tatted on their face to who's weight. While the old head is yelling, it's never too late. Too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late. Stomach growling.
I'm thinking, how can I make some dollars within the hours? It's funny how them hunger pains to your rib can turn a decent kid to doing the bid over stick-ups, no income, so screw the consequences. I throw this black hoodie on, walk into this kitchen, grab my keys and...
Black Milk, Sunday's Best. Merci à vous, Steve Kinn, pour vos éclairages sur la crise. Je rappelle que votre essai « L'imposture économique » a été réédité le 19 septembre dernier par les éditions de l'Atelier. Vous pouvez désormais réécouter nos émissions à vie et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter et sur Facebook. Hashtag Entendez-vous l'écho.
Sending texts and sending threats like where those payments on some deadbeat dad shit. I hate you in the worst way. Spend money on rosé instead of your son's birthday. Mad quick, I told her, hold up, hold up. Be over tomorrow, then went back up to the bar to get another glass in a bottle. Can't let her ruin my high tonight. Not alright. Plus I pulled this chicken with every sip. She's looking more and more like the model type. Ayo, let's leave. I take a reach for my keys. I'm stumbling out the door looking for my car on the street till I see this black hood wearing staring, nigga trying to stick up, shots go off, I feel victim, damn.